Bonjour Pascal Castillo.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien. Alors, on se retrouve ici dans cette vallée de Batte-sur-Guère, au-dessus de Lourdes. Et vous nous allez un peu nous expliquer pourquoi nous sommes ici, pourquoi vous nous avez conduits jusqu'ici. Alors, on va d'abord faire une petite piqûre de rappel des présentations. Vous êtes dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, responsable du patrimoine, de l'art sacré, et vous occupez aussi de la PRTL, réalité, la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs. Est-ce que c'est bon?
Alors, c'est bon. Je suis tout d'abord archiviste de formation et donc en charge des archives et du patrimoine pour notre beau diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et je coordonne les équipes au niveau de la pastorale du tourisme et je suis membre également de la commission diocésaine d'art sacré.
Voilà, donc vous avez toutes les casquettes idéales pour nous conduire ici aujourd'hui dans cette église Saint-Jacques du village de Haussen. Alors O2SEN, à ne pas confondre avec Haussen, O2SUN qui est entre Lourdes et Tarbes. Nous sommes ici dans cette église Saint-Jacques tout simplement parce que nous vivons une année jacquaire.
Alors en effet, cette année, le 25 juillet, fête de Saint-Jacques le Majeur, tombe un dimanche. Et donc, l'église ouvre une année jacquaire. C'est une occasion privilégiée pour se mettre en marche sur les chemins, mais aussi pour redécouvrir tout ce sens du pèlerinage et de la dévotion fort ancienne à Saint-Jacques le Majeur.
Alors, il y a plusieurs chemins. Alors, plusieurs chemins mènent à Rome et plusieurs chemins mènent à Saint-Jacques, à Compostelle exactement. Donc, celui qui passe par ce village d'Ossun, c'est une variante, comme on dit, hein, c'est une des voies qui traverse les Pyrénées et les Hautes-Pyrénées pour se rendre à Compostelle. Ce n'est pas l'unique voie, mais certains pèlerins passent par ici.
Tout à fait. Donc il y a des grandes voies connues, des chemins de Saint-Jacques qui traversent la France et en particulier notre diocèse. On a deux voies, le chemin du Piémont depuis Bagnères par Lourdes et qui repart vers Saint-Pé. Et ici, ben, si vous regardez la carte, vous êtes à la fois près et loin de ce chemin, sur une route qu'on appelle secondaire, mais en fait, les pèlerins donc prenaient des grandes voies, des chemins où ils pouvaient faire halte, où il y avait aussi la protection qui était en partie assurée, mais d'autres prenaient des chemins un peu de traverse. Et comme vous le disiez, nombre de routes permettent d'accéder à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc on est sur une route secondaire du chemin du Piémont.
Voilà, donc nous sommes dans la vallée de Batte-sur-Guère, je le disais tout à l'heure, Lourdes est à quelques kilomètres, à peine 5 kilomètres en dessous. Voilà, nous sommes dans la montagne, dans cette église Saint-Jacques d'Ossun. Est-ce que vous pouvez nous en dire les caractéristiques, nous la présenter, cette église?
Alors donc c'est une église dédiée à Saint-Jacques, hein. D'abord comme un certain nombre d'autres églises du diocèse. C'est une église qui a une origine médiévale. On en trouve encore quelques traces sur les piliers de part et d'autre de l'entrée de l'édifice et qui a été en grande partie restaurée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et si vous avez la chance de venir ici, ce à quoi je vous invite, vous pourrez découvrir le riche mobilier baroque qui est au sein de cette église. Donc, quand on rentre, on est saisi par le baldaquin au sommet duquel trône
Saint-Jacques, évidemment.
Saint-Jacques dans son médaillon avec ses attributs. Son bâton de pèlerin et la gourde, et on le voit là, la main sur le cœur, qui nous accueille en quelque sorte et nous montre la route. Donc, à l'intérieur de ce baldaquin, on peut approcher un magnifique tabernacle. Donc, ce tabernacle de mémoire n'est pas attribué, en tout cas, il n'y a pas les sources qui permettent de façon précise de l'attribuer, mais vous pouvez l'observer, il est
en très bon état.
Il est en très bon état, il est magnifique et il est complet. C'est-à-dire que vous voyez, au sommet, le Christ ressuscité. Hein, souvent, malheureusement, les statuettes du Christ en partie supérieure ont disparu. De même que certaines statuettes de part et d'autre de la porte sur les ailes. Là, nous avons la chance de les avoir. Et si on s'approche, donc, on remarque donc sur la porte du tabernacle, hein, puisque c'est là que l'œil est attiré, une représentation du bon pasteur, hein, avec le Christ qui porte l'agneau sur ses épaules. Et de part et d'autre, donc, sur les ailes, une représentation de l'Annonciation.
Et là, l'ange d'un côté et la Vierge
de l'autre. Et donc ces statuettes, donc de part et d'autre de la porte du tabernacle, du coffre eucharistique, on reconnaît Saint Sébastien accroché à la croix de son supplice et qui a été criblé de flèches. Il sera d'ailleurs représenté également sur la chapelle, sur la vitrale de la chapelle latérale.
Et Saint Sébastien est prié contre les maladies, contre la peste en particulier, c'est ça ?
Oui. En effet, il était invoqué à l'occasion des grandes épidémies de peste qui, on le sait, au Moyen-Âge, étaient fréquentes. Voilà, donc un saint protecteur.
Et puis, on retrouve Saint-Jacques avec ses coquillages sur le vêtement.
Tout à fait. Donc, vous voyez, sur son mantelet, son petit manteau, là, quatre représentations des coquilles. Saint-Jacques, une belle statuette, hein. Malheureusement, là. La main a disparu et nécessiterait une petite restauration, mais il tient.
Pourquoi c'est peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi on représente Saint-Jacques avec un coquillage.
Alors, de ce que on raconte, quand les pèlerins arrivaient à Compostelle, donc ils y trouvaient des coquillages qu'ils accrochaient à leur manteau ou sur leur chapeau, en témoignage justement de cette arrivée à Compostelle. Alors d'autres interprétations peuvent être aussi données. Certains disent que la coquille et sa symbolique, c'est à la fois donner et recevoir. Voilà. Je trouve que c'est une très belle image.
On va retenir celle-ci. Si
voilà, exactement. Et puis que à Compostelle, à l'arrivée, on a besoin de signes. Donc c'était une façon de dire, j'y suis arrivée, je pose ma coquille sur mon pardessus et je témoigne de ce que
et
j'ai
vu. Et plusieurs siècles après, les pèlerins qui partent du puits ou d'ailleurs accrochent leur coquillage pour montrer qu'ils sont pèlerins de Saint-Jacques.
Ben oui, tout à fait. On a besoin de signes et de symboles. Voilà. C'est important. Donc si on continue un petit peu pour les statuettes du tabernacle, on reconnaît Saint-Pierre avec sa clé. De l'autre côté, on peut supposer que c'est Saint Paul qui n'a plus son attribut.
On voit bien qu'il tenait quelque chose, probablement une épée.
Voilà. Et on sait que Saint Paul a commencé sa vie en persécutant les chrétiens avant sa conversion. Voilà. Donc dans la niche, une statue de la Vierge Marie qui symbolise aussi l'incarnation de Jésus et de notre Dieu.
Alors, on a entendu les cloches sonner. Alors, tout en nous dirigeant vers le fond de l'église où on va parler des baptistères, on peut peut-être dire un mot sur le clocher qui a été rénové.
De ce que j'ai lu, le clocher a été restauré au milieu du XXe siècle, en 1946. Alors, je ne sais pas si il avait subi la foudre ou autre chose. En tout cas, on le voit de l'extérieur, c'est une réalisation contemporaine. Autre réalisation contemporaine intéressante, je trouve, dans cette église, même si on est loin de la magnificence, de la dorure de l'art baroque, ce sont ces vitraux très lumineux.
Qui sont modernes, hein, on voit.
Oui, tout à fait. tout à fait moderne. Alors, je n'ai pas regardé s'ils étaient signés, mais en tout cas, de belles représentations. Et de part et d'autre de cette église aussi, un support à la catéchèse, hein, puisque dans notre tradition, c'était aussi tout ce qui est présenté dans une église est porteur de sens et doit nous mener dans notre cheminement plus près de notre Dieu, pour partir ensuite sur les routes du monde, bien sûr.
En commençant par les chemins de Saint-Jacques. Bon, alors on va aller du côté des baptistères, si vous voulez bien, Pascal Castillo. Alors, c'est étonnant, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux dans cette église, alors qui sont aussi des signes du temps. Hein. Là, on voit bien que ce ne sont pas des baptistères récents.
Oui, alors... C'est vrai, deux baptistères. Alors, il faudrait demander aux personnes du village, parce que moi, je vous accompagne aujourd'hui, Anne-Rose, mais je ne suis pas spécialiste de l'histoire de cette église. Et je crois que ce sont aussi les communautés qui y vivent qui nous permettent de comprendre et de lire l'histoire de nos églises. Donc là, en effet, on voit deux baptistères. Alors... Sur la gauche, là, on voit sur la base de celui-ci des pierres fort anciennes qui doivent témoigner justement de la période médiévale avec une cuve. Et à notre droite, un autre lieu du baptême, juste en dessous du vitrail qui symbolise le baptême du Christ par Jean-Baptiste. Et là, on voit en fait que ça, c'est une réalisation également très récente, hein, ce marbre poli. Donc, on peut supposer que c'est un rajout vraiment récent. Par contre...
Il y a la cuve ancienne.
Oui, ancienne, et qui est très belle. Hein.
Et qui, elle aussi, d'époque médiévale.
Oui, on peut supposer, oui.
On arrive dans cette église, dans un petit village de montagne, un petit village qui compte environ 500 habitants. On ne s'attend pas à trouver un tel trésor. Et c'est le cas un peu partout en Bigorre. On pousse la porte d'une église dans un petit village où parfois on passe en randonnant, peut-être un peu par hasard, et on trouve des trésors évidemment pour l'histoire, mais aussi pour le témoignage de la vie des communautés chrétiennes.
Tout à fait. C'est pour ça que nous vous invitons à passer à franchir le seuil de la porte de nos églises qui révèlent des trésors, témoignent des trésors de notre foi et de cet héritage et qui se vit encore, bien sûr, aujourd'hui, mais de façon certes différente. Oui, ouvrons nos églises. De tout temps, l'église est un lieu ouvert où on se pose, où on prie, où on fait le point sur sa vie, on se tourne vers Dieu, vers les saints qui peuvent intercéder auprès de la Vierge Marie. Et en plus, à travers la beauté de notre patrimoine, cette beauté qui est appelée à nous aider, à nous élever, qui nous émeut, qui nous touche pour regarder un peu plus loin, un peu plus haut. C'est vrai que vous le soulignez, une grande diversité d'histoires pour chacune des églises, mais aussi une constante, c'est-à-dire toujours le souhait de faire du beau pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quand même quelque chose de touchant. Et même dans des petits villages où les communautés n'étaient pas toujours très riches, eh ben, on donnait, on voulait contribuer à la réalisation de l'embellissement et de l'enrichissement, mais au sens noble du terme, de ces lieux de culte.
Faire du beau pour la gloire de Dieu. Et on voit bien que ça continue parce que cette église Saint-Jacques d'Aussin est en parfait état, elle est entretenue, elle est propre. Donc on voit bien que la communauté paroissiale et la communauté du village est encore très attachée à cette église. Je vous propose, Pascal Castillo, qu'on quitte la vallée de Batte-sur-Guère, qu'on fasse un bond dans la vallée de Castelloubon, qui n'est pas très loin, mais il faut quand même prendre la voiture parce qu'il y a un petit peu de route, il faut descendre puis remonter. On va aller direction Côte-d'Oussan.
Très bien, ben je vous suis, Anne-Rose. Nous n'avons pas décrit tous les éléments de l'église, parce qu'il nous faudrait des heures, et faire appel aussi à certains spécialistes. Mais en tout cas, venez découvrir les trésors de cette église qui, en plus, est régulièrement ouverte.